Femme novatrice.
Femme novatrice.
Femme novatrice avec Sophie Nanin.
Bonjour et bienvenue à Femme novatrice pour écouter et partager avec vous les échos de leur challenge. Aujourd'hui, nous recevons à nouveau, et oui, Florence Ducroquet et Cécile Clémente, fondatrice de l'association Champ d'Action, située à Toulouse, qui agit pour la protection de notre écosystème en nettoyant les berges de la Garonne chaque semaine. Nous voulions absolument les revoir. Bonjour Florence et Cécile.
Bonjour Sophie.
Ravie de vous avoir, oui, parce que je tiens énormément... Alors oui, animatrice de femmes novatrices, bien évidemment, ça a du sens avec vos deux profils de femmes engagées. Mais en même temps, c'est vrai que sur Radio Présence, je voulais absolument qu'il y ait aussi l'évolution des actions que vous menez. Et là, sur les derniers mois passés, il y a eu beaucoup de choses. Par rapport à ce que vous menez. Alors, j'ai précisé qu'effectivement, vous étiez sur la protection de notre écosystème. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez rappeler tout de même le pourquoi de Champ d'Action avant d'enchaîner sur toute cette extension sur les Pyrénées, sur Toulouse Métropole, les accords, les attentes nouvelles qu'ils ont. Donc voilà, si vous pouvez simplement rappeler à nos auditeurs qui vous êtes.
Alors, Champ d'Action est né d'un constat, d'un témoignage assez alarmant d'un très bel îlot, un bras mort de la Garonne. C'était en aval, en amont de Toulouse. Et en fait, on est tombé sur une forte décrue ce jour-là. Et effectivement, il y avait des plastiques qui jonchaient les arbres, mais à perte de vue et sur des hauteurs assez impressionnantes. Donc avec Florence, on a été choqués par ce qu'on a vu. Et l'association est juste née de ça, en fait, d'un envie de réhabiliter l'espace qui était très beau déjà, parce qu'on l'avait vu quelques semaines avant, et de ne pas supporter, ne pas être d'accord avec ce constat-là, en fait. Et maintenant, effectivement, l'évolution, l'association a grandi, parce qu'on n'était pas les seuls à être choqués par ces pollutions.
Parce que par rapport à justement tout ce qui est environnement, on est très sensibilisé. Alors vous êtes vraiment deux actrices qui sensibilisez toute génération. Et par rapport à cela, si on doit être en premier point, Florence ou Cécile, qu'est-ce qu'il en est déjà sur l'évolution et des actions là que vous avez menées ces derniers mois?
Oh là, alors on a mené beaucoup plus d'actions qu'on n'aurait jamais menées en 7 ans d'existence.
Super réponse.
On est tombé début janvier sur une décharge sauvage immense dans Toulouse. C'est un bénévole qui nous avait alerté sur cet endroit. Et en fait, on ne connaissait pas du tout.
Et qui est où?
Parce qu'en fait, même en kayak, on ne passe pas par là. Il est juste derrière le casino barrière. Et en fait, c'est un espace qui, comme beaucoup d'endroits sur la Garonne, qui est privé, public. Et du coup, on ne sait pas trop à qui il appartient. Et du coup, c'est juste derrière le casino barrière. Et en l'espace de quelques semaines, on a ramassé 15 tonnes de déchets. Mais 7 tonnes de déchets, pardon. Mais du coup, depuis janvier, on en a ramassé 15 tonnes. Et du coup, en fait, ça a été vraiment une épreuve sportive. J'ai lancé un appel sur les réseaux en disant « Si vous voulez venir à une seule sortie dans l'année, merci de venir à celle-ci ». Et du coup, on a eu beaucoup de réponses. Il y a des centaines de personnes qui sont venues. On a eu la chance d'avoir aussi des sportifs. On a le Pôle Espoir de Castelmourou, qui sont nos jeunes espoirs, les meilleurs jeunes footballeurs d'Occitanie qui sont venus nous aider. Et du coup, oui, c'était intéressant pour eux parce qu'ils ont entre 13 et 17 ans. C'était intéressant pour eux parce qu'en fait, c'était un endroit qui concentrait toutes les causes de pollution de la Garonne. Et du coup, on avait des pollutions parce qu'il y a des gens qui y habitent. On avait des pollutions par rapport aux anciennes crues, parce que la crue qu'on a eue à 2 ans, on avait encore tous les stigmates. Alors, on avait des déchets qui étaient enterrés, on avait des décharges sauvages, on avait des dépôts d'amiante, on avait des dépôts de pneus, on avait des bouches d'évacuation des eaux qui étaient bouchées sur 10 mètres. On n'a jamais vu ça. Et du coup, ça a été une action massive. Du coup, ça nous a entraîné à avoir un partenariat avec Noroto, qui a récupéré l'équivalent de 200 pneus. Un partenariat également avec Toulouse Métropole, qui, comme en fait, ils ont, la mairie de Toulouse a pour envie de faire en sorte que l'île du Ramier devienne l'incarnation du poumon vert de la ville.
Donc ça, c'est leur nouvelle, on va dire, directive. Ça y est, c'est leur c'est demande. L'emblème, ouais. C'est l'emblème. Mmh. Ça veut dire qu'emblème, eux ont des nouvelles attentes de votre part. Mais ça veut dire que là, vous avez pris, donc, pas pouvoir, ce n'est pas peut-être le bon terme, mais à la limite, une meilleure écoute, je ne sais pas. Vu ce que vous me dites, là, sur ça.
Alors, l'attente, elle est tant dans, pas l'expertise, mais on pourrait presque dire ça, mais c'est l'expérience qu'on en a sur le terrain, en fait. C'est les remontées qu'on peut avoir par rapport aux constats qu'on peut faire. C'est-à-dire que, pour qu'il y ait certains types de pollution, comme cette fameuse bouche d'évacuation d'eau de pluie, mm-hmm. elle est aussi de leur responsabilité, finalement. Donc, effectivement, ce que nous, on attendait, c'est effectivement la prise en compte de certains types de pollution qui peuvent être évités, comme mm-hmm. celui-ci. Et eux, effectivement, ce que nous, on peut apporter, ça va être effectivement l'expérience et la connaissance des émissions de pollution.
Donc, ça veut dire que là, au bout de 7 ans, on va dire qu'il y a une expertise et une reconnaissance, ça y est, qui est en place. D'ailleurs, les experts, ce sont vous deux, et bien évidemment, toute l'équipe et les bénévoles. Mais ça veut dire qu'il y a presque un label, là, qui est en train de s'installer par rapport à tout ce que vous avez mis en place, je ne sais pas, hein, je suppose.
Une construction commune sur une problématique majeure, en fait.
Et donc c'est le citoyen, maintenant, qui est effectivement entend ce que vous faites, et là, il y a véritablement
mais
une implication.
Oui, ça a toujours été le cas. Mais par contre, là, c'est quand on est avec Toulouse Métropole, ça a toujours été le cas, mais là, on a une majorité de hiérarchie qui est intéressée, en fait. Là, il y a un alignement, qu'on peut dire, de prise de décision. Avant, il y avait toujours des gens intéressés qui portaient un peu, effectivement, c'est comme mm-hmm. ça que Toulouse Métropole a su qui on était, hein. C'est parce mmh. qu'effectivement, il y avait des parties prenantes qui étaient très intéressées. On a des agents de Toulouse Métropole qui sont venus ramasser avec nous. Donc, c'est qu'effectivement, il y avait quand même déjà cette prise de conscience. Mais là, elle est constructive.
L'engagement est véritablement là, oui. Maintenant.
Je pense qu'on a tous pris conscience. Nous, c'est le message qu'on essaie. S'il y a un seul message à faire passer, c'est que la Garonne, c'est notre eau potable. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne font pas le lien entre l'eau de leur robinet et la Garonne. Et le scandale qu'il y a eu avec le directeur de l'ARS, tous les polluants qu'on trouve dans l'eau.
L'ARS, tout le pôle santé, hein, je précise aux auditeurs, pour ceux qui ne savent pas.
Nestlé, les eaux, la surpollution des eaux en bouteille, ça fait que c'est une problématique qui a été mise sur le devant de la scène et qui a occupé tous les médias pendant plusieurs semaines. Et je pense que beaucoup de gens ont réalisé que quel que soit votre niveau social, quel que soit... On a tous une seule manière de boire notre eau, de prendre une douche, etc. Et du coup, on a beaucoup plus de facilité à réunir tous les acteurs, que ce soit les acteurs au niveau d'eau de Toulouse, que ce soit les citoyens, que ce soit les politiques. C'est au-delà du dérèglement climatique. Il y a quelque chose de très urgent à faire avec notre eau. Et le fait que ça a été mis, que les scandales ont permis de mettre ça au devant de la scène a fait que ça bouge énormément les choses.
Mais là, oui, mais vous êtes aussi très mobilisatrice, on va dire, par rapport à toutes ces actions, parce que c'est quand même donc chaque semaine, vous rassemblez toutes les générations. Et là, pour une 7e année, on a l'impression que ça fait quand même une passerelle. Là, vous passez à une nouvelle étape par rapport à toutes les actions que vous menez.
Femme novatrice, Sophie Nanin.
Une évolution de vos actions quand même très importante. Donc comme je le précisais, chaque semaine il y a ces rassemblements que vous organisez. Mais il y a quand même deux pôles qui sont très intéressants, sur lesquels j'aimerais bien que vous puissiez donc développer. C'est le printemps citoyen et le fait de sensibiliser les jeunes, parce qu'ils sont beaucoup plus impliqués aujourd'hui, et même à la limite dans l'environnement, champ d'action permet de mieux comprendre l'environnement, ce que c'est et autres. C'est pas que vos actions, c'est-à-dire vous allez être ambassadrice en quelque sorte. Là, vous pouvez évoquer un peu plus Printemps Citoyen justement et les actions ou Florence, je sais pas, comme vous voulez.
Alors, le Printemps Citoyen, c'est une action qui a été impulsée par la région Occitanie, à laquelle on a répondu parce qu'effectivement. Ça faisait suite à un dispositif mis en place donc, par la région qui faisait écho à une convention citoyenne d'Occitanie. Donc des décisions ont été prises lors de cette convention. Effectivement, le côté lien, lien humain, en fait, finalement, était un peu mise en avant. Et nous, on a forcément répondu parce que c'était aussi ancré dans notre ADN. Parce que l'action ne se fait jamais seule et se fait toujours Donc ça veut dire qu'il y a une mixité sociale et une créatrice de liens qui est chez nous assez... qui fait partie effectivement de l'ADN de l'association. Donc on y a répondu. Et effectivement, on a proposé des actions qui sont visibles sur le portail de la région.
Voilà. Ok, donc maintenant, eux sont avec vous. Et concernant les jeunes, alors il y avait déjà des actions que vous meniez à l'époque. L'évolution, là, comment ça s'opère auprès d'eux par rapport à cela?
Après, je pense qu'ils aiment bien le fait que l'association soit un concentré d'action et que ça leur correspond, que c'est une génération qui a besoin d'être dans l'action. Je pense qu'ils aiment bien aussi le fait d'être acteur dans l'association et de ne pas être spectateur. Le fait que,
ils vous ont sollicité? Ils sont venus vers vous?
Oui, toujours.
Toujours?
En fait, ils nous sollicitent tous les jours. Hier, moi, j'étais avec une stagiaire. Là, on va rencontrer une jeune qui veut également faire partie de l'association, mais cette fois au niveau des réseaux.
Ça veut dire que vous êtes là, parce qu'on est en plein dans la période, on va dire, des alternants, les recherches, les stages et autres. Ça veut dire que là, les jeunes peuvent se rapprocher de vous sur Instagram, sur Champ d'Action? Et il y a une écoute ou pas, et puis il faut que le profil corresponde, bien évidemment, leur détermination et leur fiabilité, on va dire. Mais en tout cas, il y a une écoute à ce niveau-là, s'ils se rapprochent de vous, quel que soit le département.
Les faire acteurs du sujet, je pense que les générations antérieures étaient des générations passives, et si on doit enlever quelque chose chez eux, c'est cette passivité. Et par exemple, on a des SNU, des Services National Universels, du coup c'est des lycéens, on en a trois. Et du coup, en fait, c'est de les pousser à être aux choses que... Du coup, par exemple, on a Festinature à Blagnac, qui est un événement écologique au niveau des Ramis à Blagnac ce week-end. Et du coup, moi, mes trois CNU, je les mets responsables du stand, du début à la fin. Du coup, ils nous regardent au début un peu choqués en se disant « Mais on a 16 ans, est-ce qu'on va y arriver ?» Et du coup, moi, je leur dis « Il faut dépasser ça, il faut vous mettre en avant, il faut passer à l'action. » Même chose, on fait des prélèvements dans la Garonne. Le but, ce n'est pas qu'ils nous regardent faire des prélèvements dans la Garonne, mais c'est leur expliquer tout le processus, c'est leur faire faire le prélèvement, leur faire faire envoyer au CNRS et les faire regarder les résultats. Et dans ce qu'on essaie de faire dans le champ d'action, c'est... de leur faire faire des... Ils veulent beaucoup s'investir aussi dans la communication. Du coup, c'est de les faire investir dans Insta, qu'ils réalisent des vidéos, qu'ils réalisent les sujets de la communication, qu'ils choisissent les musiques. Et c'est vraiment de les impliquer.
Le mois d'avril, pardon, je vous ai coupé, mais le mois d'avril reste un pôle fort, une saison forte. Oui. Pourquoi? Il y a une raison particulière? Parce que là, il y a une augmentation de toutes les actions. S'il y en a certaines que vous pouvez citer avec plaisir. Mais pourquoi le mois d'avril, là, il y a un déclencheur? Ça y est, c'est le printemps
c'est
et on y va.
C'est à partir d'avril, c'est avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre. À partir d'avril, oui. En fait, dès qu'il fait beau, les gens ont envie d'être à l'extérieur et de s'y impliquer. Vous êtes frileux quand même dans la région.
Alors, si vous pouvez me dire ça, je m'en fiche complètement. Je suis normande exilée ici depuis 20 ans.
Si jamais il pleut à Toulouse,
mais non, ils
ne
sont pas frileux, ils ne sont pas passifs à Toulouse. Hors de question, j'entends.
On va avoir que des Parisiens ou des Bretons ou des Anglais.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est réel, franchement.
Alors là, attention. Vous avez vu cette complicité à l'autre, chers auditeurs. Non. Là, sur ça, les stéréotypes, on est ici pour les casser. Briser les préjugés, mais ne dites pas ça. Non, tout le monde est mobilisé, tout le monde est actif sur ça. Le breton, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous êtes de quelle région?
Je suis bretonne.
Ah, ben voilà, c'est de l'autodérision, je préfère. Là, je me retrouve dans mon émission. Allez-y, continuez.
Mais du coup, en fait, notre but aussi avec les jeunes, nous, on a une préférence pour aller chercher des jeunes qui... ne sont pas du tout intéressés par la problématique de l'environnement. Et c'est la même chose avec les entreprises. On a une préférence pour aller chercher des salariés qui vraiment viennent la première sortie. Ils n'ont pas du tout envie d'être là. C'est leur employeur qui a fait une journée RSE. Du coup, ils sont là un peu par obligation.
Alors, comment ils ont évolué, justement, les entreprises? Parce que c'est effectivement le côté RSE, c'est la grande tendance. Vous dites que là, c'est les entreprises qui leur ont dit « Allez-y ». Comment ça, le rapprochement avec les entreprises, comment ça, l'effet de levier s'est mis en place? place, un peu plus actif.
C'est que la première année, ils viennent pour ramasser. Généralement, ils veulent une formule basique, ils veulent une petite sensibilisation de 5 minutes, mais ils veulent juste barrer la ligne RSE de leur... Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on les a depuis le début. Il y en a certains qu'on a depuis 7 ans. Et du coup, à chaque fois qu'ils reviennent l'année suivante, les personnes qui étaient le moins intéressées vont nous poser le plus de questions. Et on en arrive à des jours où, en fait, il y a des salariés qui viennent me poser il y a quelques jours, ils me posaient une question très précise. Est-ce qu'un arbre est capable d'absorber du plastique? Qu'est-ce qu'on fait à Toulouse au niveau de la réutilisation des eaux usées? Et ils vont nous poser des questions très précises qui, nous poussent à aller beaucoup plus loin, mais ce qui fait qu'on met aussi en place, avec les entreprises, des ateliers au sein des entreprises, parce qu'ils ont besoin de pousser beaucoup plus loin les problématiques. Et du coup, ça, c'est hyper intéressant parce que nous, ils vont nous chercher sur des questions qu'on ne se pose pas forcément. Et on repart de ces réunions avec des questions. Et comme on est aussi en partenaire avec le pôle scientifique, on arrive au pôle scientifique avec des questions très précises qu'ils nous ont posées.
Donc, vous avez fait toute une croissance à ce niveau-là, au niveau de l'écoute, au niveau de l'application, à la limite des cohésions d'équipe, hein, parce qu'on en parle pas mal aujourd'hui. Maintenant, il y a un rapprochement encore plus fort au niveau de l'entreprise à ce niveau-là. Vous apportez des solutions, ils ont envie de véritablement s'engager. On n'est plus dans le constat côté entreprise, mais vraiment l'implication. Donc, opérationnel, ils sont... Maintenant.
Ils ont plaisir. Il y a toujours 10 minutes en début de réunion où on se rencontre, où ils vont nous expliquer, OK, depuis la dernière fois, on a mis en place ça, ça, ça. Il y a beaucoup de dialogue qui se fait, il y a beaucoup d'implication des salariés, où on n'est plus simplement à ramasser des déchets sur la Garonne, on est, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, Occitans, pour...
Mobiliser pour leur territoire, vous voulez dire.
Voilà, et on a la même chose au niveau des scientifiques. On a des scientifiques qui nous demandent qui veulent nous rencontrer. Au début, ils étaient étonnés qu'on connaisse leurs travaux de thèse ou leurs recherches. Mmh. Et actuellement, en fait, ils nous engueulent à la limite quand on ne s'est pas inscrit à leur conférence. Et ils veulent avoir un retour de notre expérience terrain. Ne serait-ce que par rapport à certaines rivières, par exemple, entre Toulouse et Blagnac, il y a le Touche. Et on parle avec eux de différentes rivières sur lesquelles ils ont organisé des prélèvements, ils y ont étudié la pollution. Mais nous, ce n'est pas du tout les endroits dans lesquels on constate cette pollution. Du coup, on leur dit, mais pourquoi vous n'allez pas à tel endroit, c'est 1000 fois plus pollué. Et aussi, on a un constat différent, puisque nous, on a les pieds dans la rivière. Du coup, si je vous parle de la rivière de Blagnac, je peux vous dire qu'il y a des strates de déchets. Ils essaient d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a autant de microplastiques dans cette rivière, mais nous, on arrive à l'expliquer parce qu'il y a des strates de plastique. Les berges ont été constituées par des déchets. Et du coup, on a une pollution pour les 100 prochaines années dans ces berges. Et du coup, eux, ils arrivent 10 minutes, ils font un prélèvement, ils arrivent au laboratoire. Mais du coup, en fait, et nous-mêmes, en fait, on est arrivé à ce constat parce qu'il y a on a travaillé avec 20 000 personnes. Et dans ces 20 000 personnes, il y a des personnes qui ont travaillé sur ces berges il y a 40 ans. Et du coup, elles savent exactement pourquoi elles sont polluées, parce qu'elles y ont travaillé. Et ça paraissait normal à l'époque de se débarrasser des décharges sauvages et de constituer les berges. Et ils nous regardent étonnés en disant « Oui, mais il n'y a rien de mieux pour constituer une berge que des pneus. » Et dans ma tête, je me suis dit « Mais vous savez le nombre de produits chimiques qu'il y a dans un pneu ? Il y a les retardateurs de flamme, il y a les accélérateurs, il y a des tonnes de produits chimiques dans un pneu. La plus mauvaise idée qu'un être humain puisse avoir, c'est de constituer quelque chose avec des pneus ou avec des déchets au bord d'une rivière, sachant que c'est ce qu'il boit à l'arrivée. Et du coup, en fait, ce que moi j'aime dans l'association et ce que j'aime dans la tournure qu'elle est en train de prendre, c'est que c'est pas nous, c'est pas les pouvoirs politiques, c'est quelque chose qui est beaucoup plus global. Où
la situation, on va dire, économique, planète, hein, sans rentrer dans les grands schémas, on voit que maintenant, les personnes vont être effectivement plus impliquées. Maintenant, ils veulent du concret, et pas beaucoup de personnes, donc vous entourez.
C'est des codes. Tout à l'heure, vous disiez que vous ne supportiez pas cette histoire de Breton, mais c'est l'idée de...
Quand je vous ai dit ça...
C'est l'idée de casser ce qui existe.
J'aime les gens mobilisés, où qu'ils soient.
C'est casser ce qui existe. Normalement, vous avez les universitaires qui travaillent entre universités. Personne ne connaît leurs travaux. Vous avez les journalistes qui vont travailler de leur côté. Vous avez la métropole qui va travailler de son côté à ses projets, de temps en temps, faire appel au public, mais c'est quand même rarissime.
C'est chacun dans son coin.
C'est chacun dans son coin. Et des fois, on se rend compte que le maire de Toulouse ne connaît pas la plus grande scientifique de et on se dit, mais c'est pas possible. Du coup, on les met en
les entreprises, ils se connaissent pas entre services.
On essaie de mettre tout le monde en lien.
Et c'est pour ça que vous êtes là encore à nouveau aujourd'hui, parce que justement, vous tissez les liens. Oh, c'est plus que ça. Oh là là, quelle humilité, modestie. Non, non, vous ne vous baladez pas. Vous êtes carrément là, vous bousculez. Alors oui, les codes, mais vous bousculez les personnes pour surtout écouter, quoi. Et puis vraiment, qu'il y ait un suivi après. Parce qu'effectivement, c'est comme un algorithme que vous mettez en place maintenant. Là, comme vous le précisiez, les politiques ne connaissaient pas ce que faisaient les autres, quoi.
Mais même les scientifiques, entre eux, ils n'ont même pas connaissance. Mmh. Du coup, on se dit, pourquoi est-ce que vous n'y incluez pas un biologiste qui va étudier ce qui se passe à l'intérieur d'un
poisson.
Ils
enchaînent derrière.
Ah, ils enchaînent, tout le monde enchaîne. Je veux dire, c'est intéressant en fait de créer cette. Les gens nous le reprochent au début parce qu'on les bouscule. Mmh. Mais après, je ne sais pas
si on peut vous refuser grand chose. Vous voyez, avec le timbre de voix, le rythme et tout, vous êtes quand même un vrai capitaine. Hein, et par rapport à un vrai coach sur le terrain, sportif, par rapport à tout ce qui peut être effectivement mis en place. C'est quand même exemplaire, votre dynamisme-là.
Je pense aussi que c'est qu'on a la chance, nous, d'avoir quelque chose qui est extérieur, alors qu'un scientifique qui va être plongé dans ses recherches et que nous, on crée des espèces de synergies qui nous paraissent évidentes, alors qu'eux, ils n'ont pas forcément
Justement, par rapport à ce que vous dites, les scientifiques ne vont pas être très terrain et très opérationnels, et pourtant, ils vont vous écouter et vous suivre. Cette partie opérationnelle, parfois, c'est justement les travaux de recherche, comme vous l'évoquiez. Mais la suite, ce n'est pas forcément ça qui va les interpeller. Et vous arrivez à les fédérer, c'est quand même énorme, quand même, à ce niveau-là, par rapport aux actions que vous menez. Comme là, au niveau politique, c'est eux qui ont des attentes, vous attendiez des choses de leur part, et c'est maintenant eux qui transmettent, qui vous disent, attendez, maintenant on est dans cette direction. Vous les avez amenés, enfin pour moi, si je ne me trompe, à réfléchir, dans une remise en cause quand même.
C'est aussi un amour de la ville de Toulouse ou de la Garonne. Je pense que on est dans une société qui va aller chercher énormément les divergences, alors que si on se concentre 5 minutes sur ce qui nous unit en tant qu'Occitans,
c'est rapide. Ça vous prêchez une convaincue, ça. Pas de problème.
Sur le terrain, c'est vrai qu'il y a cette unité-là et ce lien-là. Et même effectivement dans les personnes qui viennent de l'extérieur et qui ne sont pas du tout partie prenante à la base et qui viennent dans un cadre RSE, il y a cette action commune, cette direction commune qui est faite. Et quand on travaille sur une forme de mixité sociale avec des jeunes en situation précaire ou peu importe, sur en tout cas être habillé de la même manière et faire la même chose pour finalement le même résultat, c'est de réhabiliter des espaces naturels, il y a quelque chose d'une forme d'une unité qui est assez...
Après, c'est un défi aussi. Moi, je trouve ça intéressant d'aller chercher ce qui... moi, à la base, je suis avocate. C'est intéressant d'aller chercher le truc qui va faire que dans le cerveau, ça va basculer. Quand vous avez, par exemple, un jeune qui est condamné par un juge qui vient d'un quartier difficile de Toulouse et qui n'en a strictement rien à faire de la Garonne et de l'eau potable, aller lui expliquer pendant une demi-heure pourquoi il ne doit pas jeter son mégot, parce que ça va avoir un impact sur l'écosystème, qu'il n'en a rien à battre. Mmh. Alors que si j'arrive à essayer de lui faire comprendre que ce mégot, une fois qu'il est dans l'eau, au bout de 40 minutes, tous les polluants vont être dans l'eau et que ça va toucher sa maman. Il y a quand sa maman fait cuire des pâtes, quand elle boit de l'eau du robinet, quand elle prend une douche, etc., elle va revoir toutes ces molécules qui vont... Et du coup, à partir du moment où on le ramène à quelque chose qui le concerne, qui est très concret... Et c'est la même chose dans des entreprises. Il faut considérer que la moitié des gens qui viennent aux sorties ne sont pas sensibles à cette problématique. Et du coup, là, c'est de ramener à quelque chose qui nous est propre, notre patrimoine, ou alors même tout simplement, basiquement, les pousser à voir la chose comme un défi sportif. Il y en a, ils viennent, ils veulent juste éclater le record d'Air France ou notre record, il est tenu par les filles du Stade Toulousain. Il y a des gens, ils viennent juste pour essayer de l'éclater. Bon, ils n'y parviennent pas, mais...
Non, mais ça me va bien comme phrase de fin de les éclater. Mais en tout cas, de ce que vous dites, ce que j'aime beaucoup, pour terminer malheureusement cette émission, mais de ce que vous nous avez appris encore aujourd'hui, bravo. À vous deux.
Moi,
et
je voudrais juste
tirer
une dernière chose, si je peux, une minute.
Oh, parce que c'est une Normande qui dit oui à une Bretonne. Allez-y.
Alors, on va se concentrer sur un déchet très, très rapidement. On va se concentrer sur les piles. Merci de ne pas les laisser. Nous, on en ramasse énormément
auditeurs.
Sur les verges de la Garonne.
Elle dépasse le timing. Vous avez vu ça un peu, mais je voyais.
Il y a 1,3 milliard de piles qui sont mises sur le marché en France tous les ans. Il y a un circuit qui a été mis en place pour le recyclage des piles. Et pour autant, il y a 715 millions de piles qui ne revoient jamais surface. La plupart sont dans vos tiroirs. Si elles sont dans vos tiroirs, ce n'est pas la plus mauvaise chose. Mais surtout, ne le mettez jamais, jamais, jamais dans la poubelle. À partir du moment où vous les mettez dans la poubelle, ça va à l'incinérateur de portée, c'est cramé à 600 degrés, ça ne va jamais disparaître. On ne peut pas faire disparaître une pile. Et pour autant, dans une pile, vous avez des métaux lourds, vous avez des matières rares qui sont cause de conflits dans le monde, vous avez du cadmium, vous avez du cuivre, vous avez du nickel. On ne peut pas se permettre de perdre 715 millions de piles dans la nature, sachant que c'est une bombe atomique pour l'écosystème, que ça va polluer le sol pour des siècles et des siècles et des siècles. Prenez vos piles, ramenez-les dans le circuit, c'est recyclable à 75%. On récupère 75% de matières qui sont rarissimes sur cette planète.
Là, c'est impeccable, là j'avoue. Mais voilà pourquoi je vous adore, Florence, et vous lâchez rien. On est dans le même tempérament. Je pense que là, les deux, en face à face, si on fait un week-end un jour sur tout ce qui est lié justement aux décharges et autres, ça va être très motivant et passionnant. Mais c'est pour ça que toutes les deux, je suis ravie de vous avoir encore accueilli aujourd'hui. Et là-dessus, avec grand plaisir, je vous suivrai. Donc, chers auditeurs, Champ d'Action sur Instagram. On a dépassé le timing, mais on va trouver une solution et on gardera cet essentiel de fin.
Gardez les piles.
Gardez la forme à tous.
Merci.
À la semaine prochaine.